Studio Tamani, voici nos informations en français.
Lundi 14 octobre 2013, Famoussa Sidibé vous présente cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le bilan s'alourdit d'heure en heure après le naufrage de la Pinasse à Konna. Les secours se mettent timidement en place alors que la surcharge du bateau apparaît de plus en plus comme la cause principale. La mobilisation à Gao ne faiblit pas. Des marches ont réuni des centaines d'associations dans les rues de la ville. Les manifestants dénoncent les rackets, l'absence de médicaments et l'impunité. Le MNLA dit non au calendrier électoral lors de ses assises à Ouagadougou ce week-end. Le mouvement a également mis en cause la tenue des assises nationales. C'était là le sommaire. Bienvenue à vous. Le bilan continue à s'alourdir à Konna. Le décompte macabre faisait état de 39 victimes à la mi-journée. Entre 300 et 400 personnes ont pris place à bord de la Pinasse. Aujourd'hui, les secours peinent à s'organiser. Les rescapés attendent toujours des mesures pour leur venir en aide. À ce stade aussi, on s'interroge sur les circonstances de cette tragédie. La surcharge de l'embarcation, l'état de la coque, la réponse à ces questions permettra d'établir les responsabilités. Souleymane Kenzassi.
Le bilan du tragique accident ne fait que s'alourdir. Malheureusement, au nombre de 43 victimes enterrées sous le lieu, le fleuve ramène encore la surface des corps, d'autres étant sous l'eau avec l'embarcation ayant coulé totalement au fond. Combien étaient-ils à bord de ces navires? On parle entre 250 à 400 passagers. Tous se rendaient pour la fête à Niafunke, ou regagnaient leur poste, ou revenaient pour la rentrée scolaire. Les autorités du pays, le président de la République au premier chef, ont présenté leurs condoléances aux parents des victimes. D'ores et déjà, le ministre de la Sécurité intérieure depuis ce matin à Konna. Certainement que les secours vont commencer à s'organiser. De cet accident, on retient 210 rescapés et 12 blessés, tous sauvés grâce à la promptitude des agents de la protection civile dépêchés sur le lieu aux premières heures du naufrage. Ici et maintenant, la question de la sécurité se pose avec acuité pour nos embarcations sur le fleuve Niger. La Pinasse a chaviré à cause de la surcharge.
Sur place, les rescapés sont pris en charge par la population. Beaucoup ont perdu des proches qui voyageaient avec eux. Écoutez ce témoignage de Ibrahim Fofana. Il parle des secours mis en place. Il a été joint par téléphone par Souleymane Kenzassi Dibé.
On a enterré 43 dans les lieux. Il y a la vague qui amène aussi les cadavres. Des morts sont retrouvés dans beaucoup de lieux. Sûrement, il y a des gens dans l'eau.
La prise en charge, comment ça s'est fait?
La nuit même de l'accident, il y a eu des gendarmes et des sapeurs-pompiers qui sont venus, mais juste pour prendre des listes. Mais on n'avait pas amené de l'eau à boire, à manger, on n'a pas amené même des médicaments. Le gouvernement est venu les mains vides, c'est hier qu'ils ont commencé à amener. On a amené 300 000 hier, on les a donnés au village parce que ce que le village nous a fait, Dieu seul peut le payer, quoi. Et ils ont amené des couvertures aujourd'hui et puis des nattes, quoi. On a envoyé le secours qui peut sortir de la pirogue sous l'eau. Donc jusqu'à présent, le secours est arrêté à attendre du gasoil et c'est pas venu jusqu'à présent et les gens sont sous l'eau avec les bagages.
Selon une source proche de l'enquête, le manque de vigilance des trois équipes de contrôle de la brigade fluviale pourrait expliquer la surcharge de la Pinasse. Celle-ci aurait fermé les yeux à partir de Mopti sur le nombre de passagers. La Pinasse transportait 400 passagers et deux chargements de remorques de camions. De son côté, le propriétaire de la Pinasse que nous avons joint estime que son embarcation était en bon état et qu'elle pouvait supporter la cargaison et le nombre de passagers. La mobilisation ne faiblit pas à Gao. Ce matin, 203 associations de jeunes composées de milliers de personnes sont sorties pour une marche de protestation. Ces jeunes manifestent contre les rackets, le manque de médicaments et surtout l'impunité. Moussa Bourema Yoro, porte-parole du mouvement des jeunes de Gao, est au téléphone de Mariam Maïga.
Du côté des autorités, il y a plus qu'une provocation dans ces derniers temps-là. Nous avons tenu un meeting pour dénoncer le comportement des autorités de la région et c'est en ce moment qu'on libère les prisonniers du MNLA qui nous ont maltraités, qui nous ont volés, qui nous ont violés ici. Comme si cela ne suffisait pas, on lève carrément le mandat d'arrêt contre eux. Nous demandons à ces autorités de dire au MNLA de restituer tous nos biens qu'ils ont pris. Bon, ce qui appartient à l'État appartient à l'État. Si l'État peut les laisser, cela, ça ne regarde que l'État. Mais nous, nous disons nos biens qu'on nous les restitue. Ils ont le pouvoir de les libérer, mais ils n'auront jamais le pouvoir de les faire installer ici, chez nous. Et il ne peut y avoir de réconciliation, il ne peut y avoir de dialogue si nos biens restent entre les mains de ces gens. Et nous ne pouvons tolérer que des concertations, des dialogues puissent se tenir sans nous qui sommes les victimes.
Le général Amadou Aya Sanogo a quitté son fief de Kati pour être relogé dans le quartier ultra sécurisé de l'ex-base aérienne de Bamako. Ce quartier abrite déjà le président de la transition, John Kounda Traoré, et l'actuel premier ministre, Omar Tatamli. Le président de la République a informé le conseil des ministres de la nomination du général Sanogo en tant que conseiller spécial auprès de lui. Le MNLA s'oppose au calendrier du gouvernement malien par rapport aux législatives et aux assises nationales. C'était au terme de sa réunion tenue à Ouagadougou, des assises qui ont permis au cadre du mouvement national de libération de l'Azawad de réaffirmer leur attachement à un système d'autogestion. Le compte-rendu avec Sira Batili.
En premier lieu, le MNLA réitère son engagement à un système d'autogestion de l'Azawad. Le mouvement critique également les dates proposées par le gouvernement malien pour les élections législatives prévues le 24 novembre et les assises nationales. Le mouvement national de libération de l'Azawad s'oppose en outre aux états généraux de la décentralisation. Ils l'ont fait savoir à Ouagadougou lors de la clôture de leur réunion. Selon le porte-parole du dit mouvement, Moussa Ag Atayer, l'organisation de ces élections risque d'exclure une bonne partie de la population pendant au moins 5 ans. Le MNLA dénonce également le non-respect du cessez-le-feu, les arrestations et la lenteur dans le cantonnement des combattants. Il a par ailleurs salué la disponibilité des autres groupes armés comme le HCUA, le MAA dans le cadre de l'harmonisation de leur point de vue sur les futures négociations concernant le statut juridique et politique de l'Azawad. Le MNLA prévoit une autre rencontre le 20 octobre, cette fois-ci élargie au HCUA et au MAA.
Des militaires français ont détruit hier dimanche des explosifs abandonnés par des islamistes dans la région de Gao à 50 km de la ville d'Ansongo. Une première équipe n'était pas parvenue à désamorcer une bombe et différents explosifs. Une équipe de spécialistes est venue directement de la France pour neutraliser les explosifs. Ibrahima Sadou Maïga témoigne sur place avec, il est au téléphone avec Imira Kilou Maïga.
Ils sont arrivés vers 14h30. Ils ont dit aux militaires nigériens qui les gardaient de ces quartiers de s'éloigner carrément de la bombe. Ils l'ont regardé dans leurs appareils, ils l'ont bien visé. Après, eux-mêmes, ils se sont éloignés à peu près à 400 mètres de la bombe. Le tireur de l'île s'est éloigné de la bombe à 400 mètres et il a tiré sur la bombe. Du coup, et la bombe et la chose emballée dans la couverture et les mines qui l'entourent sont explosées. Ils ont fait un petit dégât au pont sur lequel se trouve la bombe. Ils ont un peu endommagé les pliers sur les le pont est construit, mais le pont reste encore praticable.
La fête de Tabaski, nous y sommes, c'est aussi et surtout celle des moutons. En cette période de crise, c'est la croix et la bannière pour bon nombre de chefs de famille pour s'acheter un mouton à prix raisonnable. Pourtant, les marchés sont bien fournis, la demande étant forte, cela alimente la flambée des transactions. Aliou Sidibé a rencontré un client à la recherche d'un mouton sur le marché de Sabalibougou.
Les prix varient d'un site à l'autre, mais jusqu'ici, depuis 9h, je suis en train de tourner. Les prix qu'on me propose vont de 250 à 125. Je n'ai pas eu un mouton à moins de 100 000 francs. Donc, ce n'est pas facile d'en avoir.
Mais comment vous expliquez cette flambée des prix?
Bon, je crois que les gens ont des problèmes. Ils n'ont pas suffisamment d'argent. Ils pensent qu'à partir de l'achat d'un mouton ou de deux, ils peuvent peut-être résoudre les problèmes financiers de la famille. Sans quoi le marché est suffisamment fourni. Il y a suffisamment de moutons sur le site de Salbou sur lequel nous sommes, sur le site de Kalaba où j'ai été. Je vois qu'il y a suffisamment de moutons. Et même dans les rues, il y en a.
Le temps qu'il fera, voyons cela dans quelques villes. À Bamako, la journée sera bien ensoleillée avec des températures de 24 pour la minimale et 37 maximum. Bien ensoleillée également à Ségou et la température sera de 25 le matin et évoluera vers 40 dans la journée. Bien ensoleillée à Tombouctou avec des températures allant de 30 à 40 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes continuent.